Bonjour à tous, je m'appelle Johnny, je suis marié avec Naomi, on a 4 enfants et donc c'est un plaisir de pouvoir passer la journée hier avec certains d'entre vous pour la journée de prière ici. On est aussi passé par Cavaillon il y a une ou deux fois dans le passé, donc c'est une joie de pouvoir être parmi vous ce matin. Donc je propose que ce matin nous allons lire et étudier un passage dans 1 Pierre. Donc, si vous voulez bien trouver le livre de 1 Pierre dans vos Bibles. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est le feuillet. Donc, quelques points qui vont vous aider à suivre la prédication. Et avant que je le lis, je propose que nous prions et nous demandons de l'aide de notre Dieu pour que nous puissions comprendre et écouter sa parole ensemble. Prions ensemble. Nous te remercions Dieu que tu es le Dieu qui n'est pas silencieux. Tu parles à travers ta parole. Nous te remercions pour l'opportunité que nous avons ce matin ensemble de t'écouter. Donne-nous de t'obéir, Seigneur. Nous sommes conscients qu'on a souvent du mal à mettre en pratique ce que nous savons de ta parole. Et que tu me donnes de parler clairement, que nous puissions tous comprendre ce que tu as à dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Lisons alors. C'est quelques versets dans 1 Pierre, le chapitre 2, et les versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais prudente. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Dans ma famille, il arrive que l'on fasse un gâteau avec l'aide des enfants. Et donc Naomi, ma femme, prépare les ingrédients. Et ce que les enfants adorent, c'est ce qu'elle a quelques moules à gâteau d'une forme particulière. Donc par exemple, en forme de sapin de Noël, ou de cœur, ou comme le dernier que l'on a fait en forme d'ours. Et même si on choisit un carré tout simple, le principe reste le même, n'est-ce pas? Tout gâteau cuit dans un moule prendra la forme du moule choisi. C'est comme ça. Et du coup, en voyant un moule, on sait à quoi, plus ou moins, le gâteau va ressembler. D'accord? Dans notre passage qu'on vient de lire ce matin, nous commençons avec le même principe, si vous voulez bien. Mais avec, comme moule, si on peut le dire comme cela, la pierre vivante de Jésus-Christ. Donc, on va le voir dans un instant. Mais dans un Pierre, la lettre que Pierre écrit à l'Église, jusqu'ici, Pierre qui est l'auteur, il décrit ce que c'est d'être chrétien. De renaître en tant que membre de la famille de Dieu, d'être formé en Jésus-Christ. Hier, si vous étiez là, sinon je vais vite expliquer, mais nous avons vu en Actes 8, dans le livre des Actes, que la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, est pour tous, tout le monde, sans frontières, sans distinction. Et que nous, ici ce matin, en tant que peuple de Dieu, sommes appelés à parler de Jésus à tous, sans distinction. Et comme l'on a dit hier, c'est comme quand on parle à tous, c'est le voisin, le collègue, la famille, les inconnus. Mais bien sûr, quand on comprend qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tout et à tous, on manque de courage, n'est-ce pas? On ne veut pas que l'on pense du mal de nous, peut-être, que nous sommes des personnes bizarres ou on a peur. Mais notre passage ce matin s'adresse directement à ce genre de peur, en nous aidant à comprendre à quoi ceux qui veulent vivre pour Jésus et l'annoncer doivent s'attendre. Parce que voilà, Pierre commence en rassurant ceux qui ont reçu la vie, ici, que l'épreuve n'est pas une surprise, car le chrétien est façonné par Dieu pour ressembler au moule, si vous voulez bien, de Jésus-Christ. Et nous le voyons dans les versets 4 à 5. C'est notre premier point. Pierre est en train de dire, dans les versets 4 à 5, « Soyez rassurés, Dieu nous façonne selon Jésus. » Soyez rassurés, Dieu nous façonne selon Jésus. Vous voyez, dans le verset 4, il y a Jésus, le pierre vivante. Et puis, vous voyez au verset 5, Pierre dit, « Vous-même, vous êtes comme lui, des pierres vivantes. » Alors, nous allons voir dans un instant pourquoi il parle des pierres ici. Mais pour l'instant, voyons le contraste dans le propos de Pierre. Jésus, pierre vivante, oui, rejeté par les hommes, mais il est choisi de Dieu et précieux. Et alors, quand Pierre commence ici le verset 5, et vous-même, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Que Dieu forme son peuple selon ce même moule. Elle ne peut pas d'un gâteau, mais de pierre, de briques. Dieu nous a façonnés, si on est chrétien ce matin, selon son moule par excellence, Jésus. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Nous aurions vu, si on a pu lire le chapitre 1, que oui, le chrétien doit s'attendre au rejet. Mais il devient une pierre précieuse dans la maison de Dieu. C'est cela, en fait, une maison spirituelle, dans le verset 5. C'est la construction, non d'un bâtiment, ni d'une organisation humaine, mais de l'Église. On utilise souvent le mot Église, n'est-ce pas, pour un bâtiment. On dit, voilà, je viens à l'Église, on va dire, cette rue-ci, cette bâtiment-ci. Mais en fait, selon la Bible, on ne devrait pas vraiment le faire. Donc, au lieu de briques en argile, c'est les gens, les pierres vivantes. En fait, vous et moi, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes l'Église. Et ce qui est époustouflant ici, c'est l'association des adjectifs vivants et spirituels. Parce qu'à travers l'histoire biblique, la présence de Dieu sur terre, sa gloire et sa puissance ont été représentées par son temple et ses prêtres parmi son peuple. Donc si vous aviez voyagé à Jérusalem à l'époque, au moment de vous approcher de la ville, vous n'auriez vu qu'une chose sur l'horizon, Oui, beaucoup de bâtiments, mais un seul qui dominait les autres, 10 fois plus haut, le temple de Dieu. Et donc, vous vous seriez ainsi rappelé que là, c'est la ville où habite le Dieu vivant. Mais depuis Jésus, tout a changé. Plus de bâtiments terrestres. Jésus a dit lui-même que c'est lui le temple. Et ici, nous voyons que toute personne qui est sauvée est unie à lui, à Jésus, dans une maison spirituelle, c'est-à-dire le temple. Et non seulement le bâtiment spirituel, mais également les prêtres qui vivent dans ce temple. Un sacerdoce, c'est le nom pour les prêtres. On y reviendra dans le verset 9. Mais tout chrétien qui a accepté Jésus n'est pas un simple individu, mais fait partie alors de l'édifice spirituel de Dieu. Et ça, là, c'est un grand encouragement, n'est-ce pas? Donc, prenez juste un instant, si c'est pas trop dérangeant, pour regarder les personnes autour de vous. Ok? Allez-y, regardez les personnes autour de vous. C'est un peu bizarre, je sais. Mais voilà. Alors, depuis le début de la création, Dieu a comme projet d'utiliser les personnes ici présentes pour construire son temple vivant et spirituel à sa gloire. Quel privilège! Et ce qui est le plus merveilleux pour vous ici, c'est que ce travail n'est pas votre œuvre à vous, dans un sens. C'est Dieu qui vous façonne en Jésus, dans son moule à lui. Donc, en tant que chrétien, avez-vous tendance à croire que c'est votre tâche d'assurer que vous êtes qualifié et que vous faites suffisamment de choses pour être utile à Dieu? C'est fatigant souvent, n'est-ce pas? Revenons à ces versets. L'instruction, en fait, dans le verset 5, « Édifiez-vous », n'est pas un impératif, mais un passif. C'est-à-dire que le sens est le suivant. Pour être façonné dans ce temple de Dieu vivant, il faut se laisser édifier en Jésus-Christ. Et donc, c'est en venant à lui, en l'écoutant, en nous soumettant à lui, que nous devenons utiles, spirituels, et vivons. En écoutant sa parole, comme nous avons vu dans les versets précédents. Soyez rassurés, alors, Dieu nous façonne selon Jésus. Et si vous n'êtes pas certain que ça c'est vous, revenez alors à qui est Jésus. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas, est-ce que je fais partie de ce temple, de ce peuple de Dieu ou pas? Mais comment le savoir? Regardez au moule à Jésus et demandez-vous, est-ce que j'ai mis ma foi dans cette personne de Jésus-Christ? Est-ce que je me suis soumis à lui pour qu'il puisse me façonner comme lui-même? Soyez rassurés, c'est Dieu qui nous façonne selon Jésus. Et alors, la question... Et surtout, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, c'est de savoir si Jésus, dont nous nous approchons, est-il digne de confiance? Si vous mettez votre foi en lui, est-il digne de confiance? Et dans les versets 6 à 8, Pierre insiste, oui, soyez rassurés, Jésus est digne de confiance. Jésus est digne de confiance. Dans le verset 6 là, grâce à des citations de passages de l'Ancien Testament, de la Bible, nous avons plusieurs assurances pour ceux qui font confiance à Jésus. Et tout d'abord, c'est que Jésus est véritablement authentique. Véritablement authentique. On fait confiance en général, n'est-ce pas, aux choses qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et ici, Pierre cite la promesse de Dieu donné des centaines d'années auparavant, avant la naissance de Jésus. Le verset 6 vient ici, vient du psaume 118 dans l'Ancien Testament. Et c'est un psaume qui explique comment Dieu sauvera son peuple. Et Dieu dit dans ce psaume que ce sera par une pierre rejetée, mais choisie, c'est Jésus. Donc ici, on a le sens d'une pierre de fondation, immuable, sûre et solide. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est cette pierre angulaire. On peut le lire dans les évangiles de Matthieu ou Marc. Pierre aurait entendu Jésus dire cela, l'auteur ici. Donc, une promesse de Dieu faite il y a des centaines d'années et réalisée maintenant en Jésus. En fait, c'est un phénomène répété tout au long de la Bible, des centaines de fois, littéralement. Des promesses et des prédictions données qui ont été toutes réalisées en Jésus-Christ. Selon les théologiens et les mathématiciens même, Jésus a accompli presque 400 prophéties de l'Ancien Testament, y compris par exemple le tirage au sort de ses vêtements après sa mort. Et la probabilité, voilà, c'est pas moi qui ai fait le calcul, mais la probabilité qu'il avait d'accomplir seulement 8 d'entre elles n'est que de 1 sur 10 octillions. Ne cherchez pas à compter, c'est un numéro avec 27 zéros, voilà 6. Vous imaginez? Jésus est authentifié par l'histoire. Il est le seul, l'authentique, l'unique, le vrai. Et du coup, dans le verset 7, celui qui met sa foi en Jésus ne sera point confus. Vous avez compris cela? Celui qui met sa foi en Jésus ne sera point confus. Mais dans le monde aujourd'hui, on dirait, ok, Jésus est chouette, même authentique, mais qui a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? On peut également avoir la foi dans bien d'autres choses, quoi. Mais nous voyons même autour de nous beaucoup de personnes qui ont, dans un sens, plus de foi que nous-mêmes. On regarde les musulmans, peut-être, de la ville. Le voisin qui a tellement confiance dans son héritage français, qui, voilà, beaucoup de foi. N'ont-elles pas raison aussi, ces personnes? C'est pour cela qu'il nous faut ce verset 7. Car nous voyons ici que seul Jésus est digne de foi. En d'autres mots, et voici comment ça marche. En d'autres mots, ne mesurez jamais la foi au regard de la conviction des êtres humains. D'accord? Ne mesurez jamais la foi au regard de la conviction des êtres humains. Parce qu'ici, les gens, les bâtisseurs dans le verset 7, les constructeurs, sont les chefs religieux de l'époque de Jésus. Et c'est Jésus lui-même dans Matthieu 21 qui confirme que c'est eux dont on parle ici. Et ces individus, ils avaient une foi énorme, quoi. Tellement de foi que cela les a amenés à tuer Jésus-Christ. Mais ils se sont trompés car ils avaient mal placé leur foi. Malgré sa puissance. Vous voyez, ce qui compte avec la foi, c'est l'objet de la foi en question. Et pas le hauteur de la foi, si on veut. C'est pas l'intensité, ni même le sérieux de sa foi, de sa conviction personnelle qui compte. Mais l'objet de cette foi. Et l'illustration est là dans le passage. On parle de la pierre angulaire, qui est la pierre sur laquelle toute une construction est fondée. C'est ça la pierre angulaire. C'est la pierre de l'angle de la fondation. Donc, voici l'illustration. Imaginez-vous dans un ravin, et que plus haut dans le ravin, il y a un mur d'eau qui vient vers vous avec une rapidité époustouflante, sur le point de vous emporter et de vous noyer. Ok? Voici la situation. Et devant vous, une pierre scellée dans la terre. Et là, la quantité ou bien la qualité de votre foi ne change rien dans les faits. En grimpant sur la pierre, soit elle est suffisamment scellée pour vous protéger des eaux, soit elle ne l'est pas. Ce qui compte, ce n'est pas votre conviction dans la capacité de vous protéger, Mais si cette pierre est suffisamment solide pour vous protéger, si elle est digne de votre foi. Et qu'est-ce que l'on voit ici avec Jésus? Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse, le principal de l'angle, un rocher. Et verset 6, celui qui croit en lui ne sera point confus. Il y avait, et il y aura toujours, beaucoup de personnes qui ont une confiance et une grande foi qui dépassent de loin la vôtre et la mienne. Mais cela ne change rien si nous nous sommes approchés de celui qui est le seul digne de confiance. Seul Jésus est digne de foi. Les personnes autour de vous qui semblent tellement certaines d'elles-mêmes, de leur compréhension du monde, ont placé leur foi dans une chose qui n'a pas de fondation du tout. N'ayez pas peur de leur apparente assurance. C'est trompeur et même extrêmement dangereux. Et nous le voyons parce qu'il y a une conséquence terrifiante pour tous ceux qui ne mettent pas la foi en Jésus. C'est comme ceux qui tiennent avec une grande force et foi un bout d'herbe dans le ravin face aux eaux déferlantes. C'est là au verset 8. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Donc, ça veut dire que ne pas croire dans la parole de Jésus, c'est comme essayer de détruire un rocher avec un verre. C'est le verre qui sera évidemment bien détruit. Et on voit ici que le résultat, c'est la destruction de tous ceux qui s'aventurent. Et c'est vrai que nous avons besoin, même si c'est difficile, d'entendre ceci. Car il y a tellement d'offres, n'est-ce pas, dites de sécurité, d'épanouissement, pour la vie autour de chacun d'entre nous. Mais aucune n'est aussi sûre que celle qui est donnée par Jésus. Et en effet, toutes vont être même brisées par lui dans le jugement. Ce verset, en fait, termine avec une phrase quelque peu étonnante, n'est-ce pas? Que ceux qui rejettent Jésus ont été destinés à le faire. C'est le même mot que l'on trouve dans le verset 6, en parlant de Jésus, traduit là comme « maître ». Et l'implication de ce que Pierre veut dire ici, c'est qu'il n'y a rien qui se passe que Dieu n'ait pas décidé à l'avance. Verset 6, Dieu a décidé d'avance d'envoyer Jésus qui soit rejeté afin qu'il puisse mourir et ainsi sauver le monde. Et de ce fait, Dieu n'est pas confondu par ceux qui le rejettent non plus, car, verset 8, il avait aussi décidé cela par avance. Je suis conscient que cela est difficile, et ce n'est pas la lecture de tout chrétien faite de cette phrase. Mais la Bible nous invite à conclure que Dieu est suffisamment puissant pour décider le sort, au sort éternel de chaque individu. Attention, hein, ce qui est clair, c'est que la faute reste toujours avec la personne qui rejette Jésus. La Bible ne laisse jamais conclure que c'est la faute de Dieu si les gens le rejettent. Tous l'ont fait. Ce n'est que par sa grâce qu'il choisit ceux qui l'acceptent. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on ne peut pas non plus admettre qu'une personne soit capable de rejeter Dieu hors du contrôle de Dieu. Et c'est ça qui compte. Sinon, Dieu n'est plus souverain ni tout puissant. Et c'est lui qui a tout pouvoir. Et donc dans la Bible, ces deux vérités se tiennent l'une à côté de l'autre, partout dans la Bible. Nous ne pouvons pas les opposer l'une à l'autre. Nous sommes responsables de notre rejet de Dieu. Mais Dieu, il n'y a rien qui en dehors de son contrôle à lui. C'est lui seul qui a le pouvoir. Et ce qui semble difficile pour nous est possible pour Dieu. Et nous qui sommes l'argile, comme dit la Bible, ne pouvons pas dire au potier, qu'as-tu fait ? Et la raison, et il faut ne pas rater ceci, la raison pour laquelle Pierre le dit ici, c'est pour nous rassurer. Et voici le truc. Il veut nous rassurer que le fait que les gens rejettent Dieu n'implique jamais que Dieu manque de pouvoir. C'est important, n'est-ce pas? C'est important à savoir. Sinon, en regardant autour de nous, on pourrait croire que Mohammed ou bien le capitalisme sont plus puissants que Dieu. Mais non, Dieu reste aux commandes, y compris de ceux qu'il rejette. Et donc notre réponse, c'est de respecter, de nous humilier devant notre Dieu, d'honorer le Dieu Tout-Puissant, qui n'agit que par pure grâce, d'annoncer de sa gloire et de ses vertus. Dieu a destiné Jésus de mourir comme le seul qui soit digne de confiance, le seul abri qui tiendra. Et alors, quel privilège de pouvoir placer notre foi en celui qui est immuable et choisi et précieux. Soyez rassurés, malgré les apparences, Jésus est digne de confiance, le seul digne de notre foi. Et que Dieu nous donne de comprendre cela, n'est-ce pas? Et alors on verra la vraie nature de toutes les autres offres de sécurité, de bonheur, et de succès et d'épanouissement que nous voyons autour de nous. Comparons-les avec cette pierre choisie et précieuse. Alors, la question, la dernière question à nous poser. Que devrions-nous faire alors si c'est Dieu qui nous façonne? Ben, la réponse est de louer, le remercier et comme nous voyons ici, d'annoncer à tous ses vertus, ses hauts faits. Et Pierre le dit dans les versets 9 à 10. Il dit, appréciez qui vous êtes en tant que peuple de Dieu et annoncez Dieu ensemble. Appréciez qui vous êtes et annoncez Dieu ensemble. Le verset 9 contient quatre définitions de ce que c'est d'appartenir à Jésus. On a une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Alors, nous n'avons pas le temps d'approfondir chacune d'entre elles, mais ce sont tous des termes donnés au peuple de Dieu à travers l'histoire du monde. Une race élue, c'est d'être choisi par Dieu, comme nous avons déjà vu. Il ne s'agit pas de l'ethnicité, mais de la grâce de Dieu. Une nation sainte, c'est d'être différent des autres, mis à part pour Dieu. Et un peuple acquis, c'est appartenir à Dieu. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut. Et chaque phrase parle de ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, en tant que son peuple, en tant que chrétien. Et, comme on l'a dit, c'est aussi la deuxième fois, d'après le verset 5, qu'on parle d'un sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce, c'est le corps des prêtres. Les gens sélectionnés par Dieu, qui avaient la tâche de représenter le peuple auprès de Dieu, et Dieu auprès du peuple. Mais ici alors, c'est chaque chrétien qui devient prêtre. C'est énorme. Plus besoin de représentants humains. Pas de rôle spécial, comme dans le catholicisme par exemple. C'est le rôle de tous. Nous nous approchons de Dieu en Jésus-Christ. Et la tâche, en fait, est élargie depuis les temps précédents de Jésus. Là, c'était un ministère auprès du peuple de Dieu, Israël. Mais ici, vous voyez, c'est un ministère auprès du monde entier. Car nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et en fait, c'est comme si l'Église était l'ambassade de Dieu sur terre. Moi, je vis à Bruxelles. C'est la capitale qui compte le plus grand nombre d'ambassades dans le monde. Donc, c'est une illustration bien appropriée. J'imagine que vous connaissez le principe de l'ambassade. Une ambassade est présente pour représenter un pays étranger. Donc, on trouve, par exemple, dans l'ambassade de France, à Bruxelles, des Français qui représentent le pays en Belgique. Vous voyez l'application? L'église protestante évangélique de Cavaillon est une ambassade du Dieu de l'univers. Réfléchissez à cela. Dieu a choisi de se représenter au monde à travers cette église, ici à Cavaillon. Donc, comment le monde, ici à Cavaillon, va-t-il savoir qui est Jésus? En regardant vers vous. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre que Dieu sauve par Jésus? En parlant avec vous. Et comment est-ce qu'ils vont entendre que toute autre foi qui n'est pas placée en Jésus-Christ est inutile et dangereuse? En étudiant la Bible avec vous. Ce serait grâce à vous en tant qu'Église. Cela, c'est un défi pour nous tous, n'est-ce pas? Avec votre semaine de la bonne nouvelle qui arrive. Dites-vous que vous venez à cette Église? Est-ce que vous en faites partie en Jésus? Votre tâche alors est simple. Vous devez annoncer les vertus, les hauts faits de notre Dieu devant tout le monde ici à Cavaillon. Mais je suis certain que cela est aussi un concept qui fait peur, n'est-ce pas? Je sais parce que moi-même, si je pense que je suis censé faire partie d'une église et représenter Dieu auprès de tous, je manque encore de confiance ou je doute que ma vie soit à l'auteur. J'ai souvent peur de ce que l'on pense de moi. Vous aussi, j'imagine que oui. Et c'est pour cela que Pierre écrit le verset 10 ici dans ce passage. Et donc voici trois raisons pour lesquelles nous hésitons à annoncer Dieu à tous. Trois choses qui risquent de nous empêcher de vivre en tant qu'Église comme l'ambassade de Dieu sur terre. On dit souvent, n'est-ce pas? Je suis pas très confiant moi. Je manque de courage. Ben, relisons ces versets. C'est pas vraiment question de courage finalement. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de honte et pas de confusion. Et nous bénéficions de toutes ces bénédictions en tant qu'ambassadeurs. Donc l'enfant qui rencontre un joueur de l'équipe de foot de la France, qui reçoit de sa part des tickets VIP pour le prochain match, ne manquera pas de confiance pour en parler à tous. Donc, pas besoin de honte ni d'hésiter devant les autres. Que Dieu nous donne la joie de reconnaître notre statut en Jésus et de ne pas nous soucier de ce que pensent les autres et d'en parler à tous. Mais peut-être que tu te dis, mais voilà, je n'ai pas les compétences nécessaires pour en parler. Mais finalement, tout ce dont nous avons besoin pour participer à l'annonce de Jésus, c'est de comprendre que nous faisons partie, grâce à Dieu, de son ambassade à lui, avec les autres dans son Église. Donc le Français qui travaille à l'ambassade répond aux questions qu'on lui pose comme un Français parce que c'est un Français. Et cela est d'autant plus vrai pour chaque personne qui est en Jésus. Bien sûr, nous allons vouloir nous former pour parler au mieux de Jésus et pour répondre aux questions. Mais ce n'est pas une qualification qu'il faut avoir au préalable. Car au fond, on ne parle pas de nos connaissances, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Que Dieu nous donne alors d'être rassurés et conscients à chaque moment de chaque jour que nous faisons partie de son peuple, là où nous sommes. Et de plus, c'est cette pensée-là qui va nous motiver à l'honorer dans nos actions et nos pensées. Et finalement, comme on a dit, peut-être que vous vous dites, oui, mais je ne vis pas à l'auteur. Je n'ai pas un très bon exemple d'un chrétien, moi. Ne me demandez pas d'annoncer Dieu, j'ai trop d'échecs dans ma vie. Et en plus, je ne veux pas que l'on pense que je suis arrogant. J'ai peur des gens. Mais qu'est-ce que Dieu nous appelle à annoncer, en fait? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à annoncer ici dans le verset 9? Ses vertus, verset 9. Et quelles sont ses vertus à Dieu? Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion ou miséricorde, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous avez maintenant obtenu miséricorde. Vous voyez ce qu'il faut annoncer? Ceux qui méritaient, ne méritaient rien, ont obtenu miséricorde. Ceux qui n'auraient jamais été dignes d'être le peuple de Dieu ont été créés et fondés en Jésus-Christ. Nous avons été graciés. Et donc, par la grâce de Dieu, de jour en jour, nous sommes façonnés par Dieu pour ressembler davantage à Jésus, pour vivre notre nouvelle identité en tant que peuple saint, mis à part. Vous n'avez pas besoin de parler de qui vous êtes, mais vous avez besoin de parler de qui Dieu est et de ce qu'il a fait, comment il vous a sauvé. Donc, annoncez combien Dieu a fait pour vous. Expliquez comment vous avez obtenu miséricorde. Et plus, en fait, vous êtes honnête concernant ce que vous seriez sans la miséricorde de Dieu, plus la miséricorde de Dieu sera mise en évidence, n'est-ce pas? Réjouissons-nous de tout ce que nous avons en Jésus, en rendant gloire à Dieu devant tout le monde, car cela est son plan magnifique. Prions ensemble. Seigneur, quand nous regardons autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, dans cette ville, dans le monde, nous voyons beaucoup des offres, des personnes de sécurité. Et nous voyons beaucoup de gens qui semblent avoir beaucoup de foi. Nous te remercions pour ce rappel que le seul qui est digne de foi est Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les personnes s'y présentent qui n'ont pas encore vraiment mis la foi en Jésus comme le seul qui en est digne. Que tu les donnes de reconnaître qu'ils ont besoin de se soumettre à toi et de se mettre à l'abri de ton jugement. Te remercions, Seigneur, pour la sécurité que nous avons en Jésus-Christ et pour le privilège qu'il y a en tant que petite église ici à Cavaillon d'ainsi faire partie de l'ambassade de Dieu pour Cavaillon, pour l'univers. Et le privilège que nous avons d'annoncer tes hauts faits, pas ce que nous sommes par nous-mêmes, mais d'annoncer ce que tu as fait pour nous, combien tu es le Dieu de compassion, de miséricorde et de grâce. Que tu nous donnes de vivre des vies qui témoignent de cela. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.